recevons aujourd'hui Nathalie Bernard, que nous avons déjà reçue il y a un an pour 7 jours pour survivre. On récidive cette année pour votre dernier roman paru aux éditions Thierry Magnier, donc Sauvage. Je vous ai parlé d'un livre qui est paru en 2017, donc 7 jours pour survivre, mais votre aventure littéraire a un peu... aventure d'écrivaine, on va dire, a commencé beaucoup plus tôt, c'est-à-dire en 98, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours ?
Oui, alors c'est vrai que c'est un parcours qui existe depuis 20 ans quand même. En fait, j'ai écrit mon premier roman, je l'ai commencé à 25 ans, j'ai mis 2 ans à l'écrire parce que je l'ai écrit sur une machine à écrire. Donc c'est très très long. Je faisais mes recherches à la bibliothèque parce qu'il n'y avait pas Internet, donc c'est très très long aussi. Et puis en plus, mon but au départ, c'était pas d'être publié. En fait, c'est un ami qui m'a dit, écoute, t'as un gros pavé maintenant, c'était une histoire de vampire, envoie-le. Donc du coup, je l'ai envoyé et j'ai eu 3 réponses positives de 3 gros éditeurs. Donc il y avait 2 Noël, Pocket et Rivage. Et le premier, j'ai dit oui tout de suite, hein, j'ai hurlé de joie, on va dire. Et du coup, ça m'a encouragée à continuer. Et la personne qui m'avait publié, donc c'était Serge Brussolo. Pour ceux qui le connaissent, c'est un auteur assez prolifique. On le compare un petit peu à Stephen King. On dit c'est le Stephen King français. Et en fait, Serge Brussolo est parti aux éditions du Masque. Donc j'ai écrit un roman au Masque. Et ensuite, j'ai continué, mais un petit peu trop librement apparemment. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit quand j'étais au Masque, c'est... il faut marteler, c'est-à-dire il faut écrire toujours le même genre de bouquin, sortir 2 bouquins par an et qu'on voit toujours en fait votre nom sur les tables régulièrement pour pouvoir avoir un succès littéraire. Sauf que moi j'en faisais qu'à ma tête, j'étais jeune aussi. Et du coup j'ai écrit un roman policier qui s'appelle Le signe de l'Anix, après j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit un roman un petit peu à la Woody Allen plus récent, et puis après hop j'ai basculé en littérature jeunesse parce que j'en avais un petit peu marre d'aller fouiller dans mes fantômes personnels, on va dire, et j'avais envie d'un peu plus de légèreté, donc j'ai commencé à écrire un livre pour ma fille qui s'appelle Silence. Donc c'est une série en 5 tomes qui existe depuis 10 années, et ça m'a énormément plu de rencontrer le public jeunesse, donc j'ai voulu continuer à écrire pour la jeunesse. Et il y a quelques temps, avec des retours de différents éditeurs, parce que j'envoyais des choses, mais ça ne marchait pas, voilà. Et on m'a dit, non, mais écoute, arrête d'écrire pour une tranche d'âge, ne te mets pas de barrière, écris ce que tu as envie de faire et tu le renvoies. Et c'est comme ça que j'ai écrit 7 jours pour survivre. En fait, j'ai écrit ce que j'avais envie. Donc c'est à la fois de la jeunesse, parce que c'est une héroïne ado, et à la fois, ça plaît beaucoup aux adultes, parce que c'est le style adulte d'où je viens aussi, donc je ne me suis pas mis trop de limites, si ce n'est de ne pas être dans une complaisance par rapport à la souffrance des personnages. Ça, j'en ai pas envie, donc ça tombe bien.
Et j'ai discuté assez récemment avec justement une auteure qui a écrit beaucoup pour la jeunesse. Elle disait que c'était assez difficile finalement de passer d'un public à l'autre, de savoir s'adapter. Est-ce que vous avez ressenti cette difficulté ?
Oui, je pense que c'est pour ça que pendant des années, j'ai eu du mal à trouver ma place chez les éditeurs. En fait, j'ai navigué plutôt chez les petits et moyens, on va dire, avec beaucoup de contacts avec les gros éditeurs, mais qui me disaient toujours « oui, mais là, il manque un truc, c'est pas encore ça, tatati, tatata », qui me disaient « voilà, il y a vraiment un style, t'as un style intéressant, mais dans la construction, dans... voilà ». Des fois, je naviguais aussi sur l'âge, c'est-à-dire, elle me disait « ah, là, au début, on a l'impression qu'il a 6 ans, puis après 12. Enfin bon, c'était assez compliqué finalement de s'adapter vraiment à l'âge. Alors que là, depuis que je suis vraiment en grand ado, on va dire, j'ai pas de difficulté. Alors est-ce que j'ai une âme de grand ado? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile pour moi.
Donc je parlais d'un roman que vous avez écrit donc l'année dernière qui s'appelle 7 jours pour survivre, qui parlait déjà, qui évoquait la thématique de la culture amérindienne avec le personnage de Nita. C'était plutôt sous la forme de thriller. Là vous revenez avec Sauvage qui est plutôt un roman historique et vous reprenez cette thématique. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots le roman Sauvage ?
Alors Sauvage, moi je dirais que c'est à la fois, déjà je dirais que c'est à la fois un roman historique, parce qu'effectivement je me suis inspirée des pensionnats autochtones qui ont existé quand même de 1830 aux années 1990 dans tout le Canada et même aux États-Unis d'ailleurs, pour assimiler la race et la culture amérindienne. Donc en fait ce qu'on faisait c'est qu'on allait chercher les jeunes autochtones, les jeunes amérindiens chez eux, dans leur famille, et on les forçait donc à aller dans des pensionnats, étaient souvent très éloignés de chez eux, pour en faire des blancs, en fait, hein, tout bêtement. Donc, et ça passait quand même par des violences, c'est-à-dire interdiction de parler sa langue, interdiction de porter ses anciens vêtements traditionnels, interdiction, voilà, de faire référence à sa culture. Donc, c'était d'une violence extrême. Et puis, en plus, bon, il y a eu aussi des sévices comme souvent dans les pensionnats comme ça, un peu religieux. Bon. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a touchée. Je pense que ce qui m'a touchée aussi, c'est quelque chose que j'aborde dans beaucoup de mes romans, c'est la difficulté d'exprimer un traumatisme et l'obligation de passer par là pour en guérir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche dans tous mes romans. Silence, c'est pas un hasard. Hein. C'est une héroïne qui a du mal à s'exprimer aussi, qui a un traumatisme à dépasser. Voilà, donc on est dans les thématiques qui m'intéressent. Et donc, dans la première partie, c'est historique. Et la deuxième partie, pour moi, c'est aventure thriller. Parce que le thriller, c'est aussi, en fait, une course contre la montre. Et les personnages sont poursuivis. Donc là, on retrouve quand même le thriller dans la deuxième partie.
Donc vous dites assez justement une course contre la montre, puisque c'est l'histoire quand même de Jonas, donc qui a 16 ans. Sa période en fait au pensionnat va se terminer dans 2 mois. Donc le compte à rebours commence dès les premières pages. Hein, c'est vraiment votre narration, c'est J-60. Il lui reste 60 jours à tirer, si je puis dire.
C'est ça.
Et donc, que va-t-il se passer justement ?
Parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'il est là, hein, et il y avait un seul religieux qui était sympa avec lui, et il est mort malheureusement. Mais ce religieux lui a donné sa montre avant de mourir. Donc c'est vrai que j'ai voulu vraiment qu'il se raccroche à sa montre, en fait, pour décompter le temps qui lui reste à passer, parce que ça fait 10 ans, il n'en peut plus. Il a tout supporté en se repliant sur lui-même, justement en ne s'exprimant pas, en se coupant des autres, en patientant et en trouvant des refuges comme il pouvait, hein, souvent dans la forêt, puisqu'il a la chance de pouvoir travailler avec un bûcheron qui est dans les bois. Donc il se ressource comme ça, et puis la nuit, il se remet aussi dans ses souvenirs, parce que quand il était avec sa mère, il a de très beaux souvenirs avec sa mère quand il vivait dans la nature sauvage. Donc c'est cette course contre la montre, parce que il patiente, mais à un moment donné, il y a un événement dramatique, l'événement de trop, qui va faire que il peut plus être sur le même fonctionnement qu'avant.
Et donc, vous l'avez dit, Jonas met en place un peu des stratégies pour supporter cette vie absolument affreuse, hein, parce que vous l'avez dit, la vie au pensionnat, c'est-à-dire que quand ils arrivent, s'ils ont la peau trop foncée, on les nettoie à l'eau de Javel, on leur interdit de parler leur langue, qui est l'algonquin. Et on leur donne même un numéro, on leur enlève complètement leur identité. Donc cette vie est absolument insoutenable. Il va mettre en place des stratégies pour supporter, pour survivre, et notamment la stratégie du souvenir. Vous le dites assez justement, il y a plein de moments où il se remémore des choses qu'il s'est passé avec sa mère, des souvenirs, mais aussi avec son amoureuse, l'amie d'enfance, Stella. Il y a une autre stratégie qu'il met en place, c'est la nature. Il pense à la nature. Il est très proche de la nature, ce garçon.
Avant, il vivait en fait dans les bois avec sa mère, donc c'était son environnement naturel. Et puis d'un seul coup, donc il vivait dans des wigwams ou des tipis, hein, les habitations traditionnelles des Amérindiens. Et puis d'un seul coup, il s'est retrouvé dans un environnement cubique, plutôt triste, avec pas d'aération, dans un environnement gris. Donc effectivement, quand on lui permet d'aller l'après-midi on l'oblige finalement à aller couper du bois, c'est son travail, mais lui il en profite pour se renouer avec cette nature qui lui rappelle en fait son ancienne vie en liberté, même si c'est une semi-liberté, il n'est pas libre quand il est avec les bûcherons.
Et donc oui, ça a une fonction complètement salvatrice pour lui, alors que la nature peut parfois se montrer hostile. Vous évoquez notamment le moment de la débâcle. Est-ce que vous pouvez nous parler de la débâcle?
La débâcle, en fait, c'est quand la glace donc commence à fondre. En général, dans ces endroits-là, c'est au printemps. Progressivement, tout fond et ça craque. Donc déjà, il y a des bruits. Et c'est assez violent parce que il peut y avoir de la boue en fait, qui des glissements de terrain, de la boue qui arrive. Enfin, il y a une modification du paysage et effectivement, il faut s'adapter. Ça peut être très dangereux. Mais lui, il a eu l'habitude de vivre avec cette ambivalence de la nature. Pour lui, c'est naturel, quoi, justement.
Et justement, cette ambivalence vous permet d'aborder aussi un thème quand même assez essentiel, en fait, c'est le respect de l'environnement. Y a une phrase très juste, en fait, de Jonas, page 35, qui dit « Je te comprends si bien, forêt, si je le pouvais, moi aussi, je soufflerais du froid et de la glace sur ceux qui m'agressent jour après jour. » Donc, ça veut bien dire qu'à force d'agresser la nature, finalement, la nature finit par le rendre à l'homme. Est-ce que vous aviez envie de passer un message à ce sujet ?
Je réfléchis pas à passer un message quand j'écris, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup en ce moment, comme la plupart d'entre nous, je pense. On est en train vraiment de détruire la planète. Moi, je suis hyper inquiète pour les générations à venir. C'est vrai que moi, je me rapproche de 50 ans. Donc, je me dis, j'ai quand même déjà vécu pas mal, même si j'ai encore envie de vivre. Voilà, j'ai envie de vivre encore plein de choses. Mais c'est vrai que je suis hyper inquiète. J'ai une fille de 19 ans. J'ai l'impression que le monde est fou, en fait, qu'on fait n'importe quoi, que les scientifiques, enfin, tous les deux jours, il y a des articles de scientifiques qui disent attention, attention, attention. Et en fait, on continue. C'est vrai qu'on finit par se dire bah, mais qu'est-ce qui va se passer quoi. Et c'est vrai que dans des thématiques comme ça, les Amérindiens, c'est vrai que pour moi, c'est aussi une grande nostalgie, même si ce n'était pas une vie idéale en réalité. Hein. Moi, je suis allée voir justement les Amérindiens d'aujourd'hui au Québec. Y en avait un qui était rigolo dans un musée qui me disait « Oui, bah, nous, on n'a pas du tout envie de revenir les autochtones d'avant parce qu'on se caillait dans les bois, puis on avait faim, et puis c'était pas rigolo, etc. » Donc ça, c'est sûr, mais... Il y a quand même une forme de nostalgie parce qu'il y avait un rapport à la nature où, bon voilà, quand ils chassaient, ils utilisaient toutes les parties de l'animal. Il y avait un respect de ce qu'on prenait dans la nature. Il y a une espèce d'échange, une espèce d'équilibre, etc., qu'on a complètement perdu. Et moi, je crois que c'est cette sauvagerie, dans le bon sens du terme, c'est le fait de vivre libre dans la nature et en accord avec elle. Pour moi, c'est quelque chose de qui me met dans une nostalgie absolue, quoi.
Et vous parliez donc de la sauvagerie. Ce qui m'a posé question, en fait, tout au long du livre, puisque quand on prend le livre, le titre, c'est tout simplement « Sauvage ». Quand on tourne donc le livre, on lit la quatrième de couverture, on comprend assez rapidement que les sauvages, en fait, désignent les autochtones. Et pourtant, on se demande qui sont vraiment les sauvages dans ce livre. Il y a une scène absolument affreuse. Absolument affreuse, qui se déroule dans la forêt, où en fait des chasseurs donc sont embauchés justement par le pensionnat lui-même pour pouvoir ramener en fait justement du gibier. Et ce sont des chasseurs absolument d'une cruauté incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont d'une sauvagerie et d'une cruauté, je n'ai pas forcément d'autres mots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il décide, donc il tire sur une espèce de chevreuil. Ce n'est pas exactement un chevreuil.
Le caribou, non.
Un caribou. Très bien, allons-y pour le caribou. Il tire sur le caribou. Le caribou est en train de rendre son dernier souffle. L'un des chasseurs lui propose de donner le coup de grâce, en fait, pour apaiser la souffrance de la bête. Et la réponse du chef, c'est non, vous savez bien que le père Seguin préfère la viande bien dure. Donc on va la laisser souffrir jusqu'au bout.
Stressé.
Voilà. Alors qui sont les vrais sauvages en fait dans cette histoire ?
C'est toute la question du roman. C'est vrai que ce titre, en fait, le mot sauvage, ça peut évoquer énormément de choses parce que sauvage, dans son sens péjoratif, ça veut dire primitif, contrairement à civilisé, bien sûr. Mais dans son sens positif, comme je vous disais, ça veut dire celui qui vit en pleine nature. Donc pour moi, les sauvages, effectivement, ce sont pas les Amérindiens dans cette histoire. C'est le prêtre qui abuse des jeunes. Ce sont les chasseurs qui abusent de leur pouvoir aussi, de leur force, de leur violence. Ça peut être aussi la nature aussi, voilà. Mais il y a énormément de sens au mot sauvage. Et j'ai découvert qu'étymologiquement, ça voulait dire, ça vient de Sylve, donc l'habitant des forêts. Donc c'est plutôt joli, finalement, au départ, quoi.
Alors que finalement, il devient un terme entièrement péjoratif de la bouche, en tout cas, de la direction du pensionnat.
Tout à fait.
Alors, direction qui est une absolue cruauté aussi, puisqu'elle est donc représentée par un prêtre, représentant donc de la religion chrétienne et de plusieurs religieuses, qui exercent une autorité absolument horrible.
Alors, en fait, là, je n'ai pas inventé. Hein. En fait, malheureusement, je me suis documentée. J'ai visionné sur Internet énormément de témoignages des survivants des pensionnats. Donc, j'ai vu des papis et des mamies, en fait, hein, aujourd'hui, qui racontaient ce qu'ils avaient vécu en pleurant, comme si c'était hier, quoi. Alors que ça s'était passé dans les années 60, 70. Enfin, c'était encore présent en eux. Et en fait, ça fait peu de temps, finalement, qu'on en parle au Québec et au Canada. Et ces gens-là, ils ont besoin de s'exprimer. Alors c'est vrai que ça a été une autre question pour moi, c'est-à-dire est-ce qu'on a le droit de s'exprimer à la place des autres ? Parce que finalement, je n'ai pas vécu, moi, dans les pensionnats. C'était une question assez compliquée, mais comme j'y ai mis du recul, puisqu'en fait, ça se passe dans les années 50, je me suis dit, je donne ma voix en plus pour ceux qui n'arrivent pas peut-être à parler. Et puis après, c'est qu'un regard, c'est qu'un roman aussi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des gens qui ont trouvé leur bonheur dans ces pensionnats, qui ont apprécié ce qu'ils ont appris dans ces pensionnats. Enfin voilà, ça reste quand même un récit de fiction. Mais c'est vrai que tout ce que je raconte a vraiment existé. C'est-à-dire j'ai vraiment lu des bouquins, j'ai vu des témoignages. Je suis allée sur les sites internet... qui parle de ça, et ils racontent tous la même chose, donc forcément...
D'ailleurs, d'où vous vient cette sensibilité pour cette thématique ?
Alors en fait, c'est venu de 7 jours pour survivre, puisque j'avais raconté ça l'année dernière ici, mais 7 jours pour survivre, en fait, donc je l'avais... c'est venu comme ça, tout seul, en retapant la cabane de mon jardin. Et donc je me suis projetée au Québec, j'ai commencé à écrire l'histoire, à dessiner en fait le personnage de Nita, jeune amérindienne, donc, qui a été enlevée et qui se réveille dans une cabane perdue au milieu de la forêt québécoise, par moins 20 degrés, sous la neige, etc. Et en fait, en écrivant ce roman, j'ai commencé à regarder, tiens, les Amérindiens, ils en sont où, tout ça. Et je suis tombée sur un article... un peu par hasard, sur les disparitions des femmes autochtones dans tout le Canada, en fait. Il y a énormément de femmes autochtones qui disparaissent, sauf que on ne va pas les chercher, enfin, la police ne fait rien et les journalistes n'en parlent pas. C'est-à-dire que si c'est une blanche, il va y avoir des articles partout. Par contre, si c'est une autochtone, bon, à la limite, elle l'a bien cherchée, quoi. Voilà. Parce que les autochtones, dans les réserves, ont pas mal de problèmes d'alcoolisme, de... Enfin, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes de... Voilà, ils traversent beaucoup de problématiques et du coup, on a l'impression que c'est leur faute, quoi. Donc, ça m'a passionnée, en fait. Ça m'a passionnée, puis ça m'a même touchée au-delà de ça, puisqu'en fait, je me suis rendu compte, quand j'ai lu cet article-là, qu'il y avait une jeune fille de 15 ans, en fait, qui avait été enlevée. Et qui avait été assassinée. On avait retrouvé son corps découpé en morceaux dans un sac plastique qui flottait en fait dans une rivière. Et cette jeune fille s'appelait Tina Fontaine. Et en fait, elle a disparu et elle a été assassinée pile au moment où j'étais dans ma cabane et où j'avais l'idée d'écrire l'histoire de Nita Rivière. Donc Tina Fontaine, Nita Rivière. C'est vrai que je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, j'ai l'impression en fait qu'il y a une âme qui était là, voilà, qui est partie du Québec, qui s'est dit, tiens, il n'y a pas quelqu'un qui peut raconter quelque chose à partir de mon histoire. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir été un peu un canal. Alors, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais du coup, quand j'ai fini le roman, je me suis dit, je ne peux pas lâcher les Amérindiens. Et puis en plus, j'avais commencé à m'intéresser au pensionnat, puisque le grand-père de Nita, en fait, a vécu dans les pensionnats, je le dis dans l'histoire. Et donc quand j'ai écrit celui-là, je me suis dit, tiens, ça pourrait être l'histoire du grand-père de Nita, en fait, sans le dire vraiment, mais ceux qui ont lu 7 jours pour survivre peuvent très bien penser ça.
Et donc, ce qui me permet de rebondir aussi, puisque votre roman parle de la nature, parle de ces pensionnats autochtones et parle inévitablement de racisme, en fait, et d'intolérance, puisque pour rappel, le peuple amérindien, en fait, est le premier peuple des États-Unis, et les Américains blancs ne débarquent qu'au XVIe siècle, après la découverte de l'Amérique de Christophe Colomb, en 1492. Mes années collège sont un peu loin. À ce moment-là, les Américains blancs vont essayer de détruire ce peuple-là pour pouvoir en fait coloniser et s'approprier cette terre. Donc ils vont être victimes des guerres, mais aussi des maladies et de toutes sortes de choses. Et ils vont leur créer des réserves. Des réserves, donc ce qui vont être des territoires réservés aux Indiens. Et ensuite vont naître les fameux pensionnats. Donc il y a ce racisme, donc... quasiment primaire en fait des Américains blancs envers les Amérindiens, mais on découvre aussi qu'il existe un racisme entre les peuples autochtones eux-mêmes, qui est notamment illustré par la relation de Jonas et de Gabriel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors, j'ai pas voulu vraiment insister sur ça. C'est vrai que les racismes entre les ethnies, c'est pas exactement un racisme. C'est-à-dire que bon, ils ont pas la même culture, ils viennent pas du même monde, et du coup, chacun est un peu dans son îlot, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que je me suis pas particulièrement intéressée à ça. Par contre, ce que j'ai appris, c'est que encore aujourd'hui, au Québec, en fait, les gens sont racistes. Moi, je savais pas. Moi, pour moi, les Québécois, ils étaient tous super sympas. Enfin, j'étais un peu étonnée. Et j'avais vu un reportage en fait sur une famille qui vivait isolée, qui s'était construit sa maison pour vivre en autonomie, en fait. Un truc qui me fait complètement fantasmer dans la nature et tout, c'est génial. Et en fait, c'était un Amérindien qui était avec une jeune femme rousse, assez jolie, et ils avaient eu deux enfants. Et en fait, il disait, on déteste aller à la ville parce que, en fait, quand on va en ville, eh ben, on entend « putain indien », voilà ce que j'ai utilisé dans 7 jours pour survivre. C'est-à-dire que les gens ne supportent pas qu'il y ait cette mixité et ce métissage. Je trouve ça incroyable de nos jours. Enfin, je me dis, mais comment ça se fait que ça existe encore, quoi ?
Oui, finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve même quasiment en France.
Ah, mais partout, c'est universel.
Voilà, ceux du Sud n'aiment pas ceux du Nord, les Bretons n'aiment pas les Corses. Voilà, c'est un conflit sans fin, mais qu'on retrouve, pour le temps, même si vous n'avez pas voulu insister dessus, qu'on retrouve très bien, même sur ce racisme entre Indiens qui vit dans la réserve et Indiens qui vit hors de la réserve. Parce que Jonas vivait avec sa mère vraiment dans la nature, dans la forêt. C'était une sorte de nomade et était interdit de venir dans la réserve, qui était le véritable territoire des Indiens.
Alors, il n'était pas interdit. Sa mère, en fait, fuyait les réserves. C'est-à-dire que sa mère, justement, ne voulait pas plier, ne voulait pas entrer dans la réserve. Donc, elle voulait rester dans la nature et elle fuyait en permanence pour rester libre. Mais de toute façon, on est dans des problématiques hyper actuelles de territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les guerres, tous les problèmes qu'il y a dans le monde, c'est un problème de territoire. C'est-à-dire que là, ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'on est de plus en plus nombreux et le territoire, on ne peut pas l'agrandir. Hein. Donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est des problèmes qui se répètent en fait en permanence depuis toujours, quoi. Sauf que le territoire se rétrécit.
Et d'ailleurs, c'est une problématique qui se répète en fait au sein même du pensionnat, hein, puisque Gabriel, donc le fameux compagnon, allié, je ne sais pas. Pas au début, puisque Jonas a très peu d'amis en fait dans ce pensionnat.
Oh, il en a pas en fait. Il y a une personne qu'il aime beaucoup, mais on peut pas dire que c'est son ami parce qu'il se confie à personne en fait. Donc il est très seul.
Et pourquoi fait-il Pourquoi est-il seul Pourquoi est-il si seul
Ben c'est le moyen qu'il a trouvé en fait pour survivre. C'est-à-dire que il s'est dit tiens. À chaque fois que quelqu'un arrive, on me demande de l'aide. Moi, je veux pas intervenir. Je veux pas sauver quelqu'un des griffes de qui que ce soit, parce qu'après, ça va me retomber dessus. Enfin, il s'est replié pour surtout éviter les problèmes, quoi. Il passe entre les gouttes. Et bah oui, jusqu'au moment où c'est plus possible, quoi.
Donc vous nous parliez tout à l'heure de 7 jours pour survivre, de Sauvage. Ça fait déjà 2 livres sur un sujet quand même assez commun à la culture amérindienne. Je crois savoir qu'il y a un troisième projet en cours.
Voilà, alors là, je suis en plein dedans. Donc là, c'est assez difficile pour moi parce que je me mets en une difficulté supplémentaire en fait en abordant vraiment le roman historique avec un personnage ayant existé. Donc ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, on sait quand même pas mal de choses sur ce personnage. Il s'appelle Kana Parker, c'est le dernier chef Comanche du Texas. Donc ça se passe milieu 19e siècle. Donc il y a toute la partie donc historique, mais surtout quand on a la biographie d'un personnage, bah, il faut lui réinventer une histoire quand même pour être quand même dans le récit romanesque. Donc là je sue en ce moment.
Et du coup, comment travaillez-vous justement sur cette thématique ? Vous lisez beaucoup de romans, vous lisez beaucoup de témoignages, beaucoup de reportages ?
Oui, c'est vrai que je suis assez obsessionnelle quand je suis sur un bouquin. Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui détestent lire le même genre de truc au moment où ils écrivent, mais moi, en fait, je lis beaucoup, beaucoup de documentaires, je regarde des films, je lis ce qui peut se rapprocher pour être bien plongé dans l'univers. Et puis, c'est vrai que des fois, en lisant, on se dit « Ah oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils mangeaient ça, puis ils mangeaient pas ça. » Enfin, il y a des trucs qui nous sont passés à côté. Donc, c'est vrai que on peut toujours piquer des trucs à droite à gauche. C'est vrai qu'on a un peu des vampires, nous, les romanciers. Et en fait, on chippe des trucs partout, quoi.
Et dites-nous, c'est quoi votre emploi du temps d'écrivain ? C'est-à-dire que vous avez besoin d'écrire, il y en a qui ont besoin d'écrire la nuit, il y en a qui ont besoin d'écrire uniquement le jour, de s'isoler, comment vous fonctionnez ?
Alors moi, j'ai besoin d'être seule parce que je supporte vraiment pas du tout la moindre présence. En fait, ça me déconcentre quand il y a quelqu'un, donc je suis vraiment toute seule, j'ai pas de musique non plus. Et j'écris tous les jours, 2 heures le matin, 2-3 heures, ça dépend si je suis en forme ou pas. Et puis pareil l'après-midi. Et puis je fais du sport, je fais du ménage, je fais d'autres trucs pour m'aérer la tête parce qu'au bout d'un moment c'est vrai que. Mais voilà.
Et combien vous faut-il de temps justement pour écrire ? Vous délimitez quelque chose ou
Alors en fait, là j'ai découvert que moi vraiment le plus difficile pour moi c'est le scénario, puisque là en fait j'ai coécrit donc la suite de 7 jours pour survivre, donc qui va sortir en janvier, qui va s'appeler Keep Up, avec un scénariste qui m'avait donné quelques conseils pour la partie flic de 7 jours pour survivre. Et du coup, on a tenté d'écrire à deux. Donc lui, en fait, on a discuté du récit ensemble quand même, parce qu'il faut quand même que je sois dedans, sinon c'est difficile de m'y plonger. Et en fait, il m'a produit une quinzaine de pages de scénarios avec la structure, etc. Et là, j'ai mis 4 mois à l'écrire. Alors que normalement, c'est 6 mois, 8 mois, ça peut être 1 an. J'ai besoin de beaucoup plus de temps quand je suis toute seule parce que je vais commencer, je vais faire une trame, je vais d'abord faire le scénar, je vais faire une trame, je vais me dire non, ça va pas, je vais reprendre. Et en fait, j'ai vraiment de plus en plus l'impression que c'est un peu comme un travail de sculpteur. C'est-à-dire que d'abord, je pose la grosse matière et puis je repasse, j'élague. Après, je cisèle. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de passages en fait.
Et dites-nous comment vous êtes venu justement à l'écriture, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains en herbe dans cette salle qui peuvent entendre ce que vous avez à leur dire à ce sujet.
Alors moi, en fait, quand j'étais enfant, bah déjà je lisais beaucoup. Hein, j'étais plutôt solitaire avec mes bouquins dans ma chambre et ma barre de chocolat, etc. Et donc j'adorais lire, c'était vraiment mon refuge. Et en fait, j'ai toujours écrit des journaux intimes, des poésies, des trucs comme ça. Et en fait, je cherchais un moyen d'exprimer quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer. Hein. C'est un traumatisme de mon enfance, en fait, que je n'arrivais pas à exprimer parce que c'était un secret familial. Et je suis passée par plein de choses. C'est-à-dire, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de la photo, j'ai tenté plein de trucs. Et puis, à un moment donné, quand je me suis lancée dans cette histoire de vampire, parce qu'en fait, j'avais lu tous les bouquins de vampires, j'avais vu tous les films de vampires, donc je me suis dit, tiens, j'ai plus rien à lire, je vais essayer d'écrire une nouvelle histoire. Et en fait, quand j'ai réussi à écrire ce livre, je me suis dit, mais en fait, c'est la manière la plus complète d'exprimer ce que je ressens. En fait, j'avais l'impression qu'avec la peinture, la photo, enfin tout le reste, c'était juste des petits morceaux, mais j'arrivais pas à dire tout ce que je voulais dire, même si... dans l'écriture, on est toujours un peu frustré parce que on voudrait exprimer des choses, on n'arrive pas à les exprimer, mais c'est ce qui se rapprochait le plus en fait du moyen d'expression total pour moi. Donc, du coup, après, j'ai pu lâcher quoi. Puis après, c'est un besoin, c'est-à-dire que c'est tous les jours. C'est un mécanisme automatique pratiquement en fait.
Et vous avez justement commencé par l'imaginaire. Est-ce que vous y reviendrez ?
Par le fantastique.
Le fantastique, oui.
Vous voulez dire ? Des fois, j'aimerais bien parce que c'est vrai que, alors justement, Chimène qui est là a fait un article là dans son blog. Elle disait s'il devait y avoir un petit défaut, ça serait le manque de fantaisie ou un truc comme ça, Tammy. C'est un truc. Enfin, c'est comme ça que je l'ai entendu. Moi, je l'ai peut-être mal entendu. Parce que c'est vrai que là, bon, je suis dans des sujets un petit peu lourds. Et c'est vrai que le fantastique, ça permet aussi d'être dans quelque chose de plus récréatif, on va dire. Donc, c'est vrai que pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai des choses à dire encore sur ce sujet. Donc,
Et vous allez rester pour le public ado ou...
Ah, là, je suis bien, là. Là, je suis quand même super bien.
Et vous y trouvez peut-être plus de choses justement envers le public ado qu'envers le public adulte, ou c'est un...
En fait, je ne me bride absolument pas sur l'écriture, donc ça c'est très agréable. Et après, c'est vrai que ça fait 10 ans que je rencontre des publics de primaire que j'adore parce qu'ils sont ils sont hyper spontanés, ils sont hyper mignons, ils sont à fond. Quand on a des problèmes d'ego, c'est bon, on ressort de là, tout va bien parce qu'ils nous aiment, on est plus beau, on est plus intelligent et tout, c'est génial. Mais c'est vrai que là, je découvre le public adolescent et je trouve que c'est vraiment super, super aussi. Et comme au niveau de l'écriture, je m'éclate quand même un peu plus. C'est vrai que j'ai bien envie de rester là quand même un petit moment. Et là, on est en train de programmer, en train de réfléchir au tome 3 là avec le...
Donc ce sera une trilogie ou
on se... Pour l'instant, on est parti sur une trilogie et puis on verra après parce qu'on ne sait pas combien de temps ensemble.
Où vous reprenez les personnages de Lieutenant Lavigne,
voilà.
Et de
Valérie Lavigne et Gauthier Saint-James sur une troisième histoire à Montréal.
Génial. J'aurais une dernière question. Je sais que vous êtes écrivaine, mais vous n'êtes pas seulement écrivaine, vous êtes aussi chanteuse. Vous avez beaucoup de projets de mise en voix. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Sur 7 jours pour survivre, c'est vrai qu'on avait fait une première mise en voix. En fait, c'est une comédienne qui a beaucoup aimé le livre et qui m'a dit « J'aimerais lire des passages de ton livre ». Donc, en fait, on a préparé quelque chose toutes les deux où elle lit des passages du livre et moi j'explique un petit peu comment j'ai écrit ça, enfin un peu tout ce que je vous raconte là en fait, mais sauf que c'est écrit à l'avance, hein, c'est préparé. Et puis on avait mis des petites virgules musicales parce que au bout d'une heure on commence à avoir le cerveau fatigué quand il y a du blabla tout le temps. Donc on avait mis un petit peu de musique pour que ça passe mieux. Et sur Sauvage, là, on vient de faire une nouvelle mise en voix beaucoup plus musicale à l'aide d'un musicien qui s'appelle Hectory. Et donc là, il y aura carrément 2 chansons, notamment Rock Around the Clock, puisqu'on en parle dans le roman. Parce qu'en fait, dans les années 50, c'était le rock and roll. Je ne sais pas si vous connaissez.
Merci beaucoup d'être venu. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour le prochain roman.
J'espère.
Merci à vous.